Bon, ben revenons sur le portrait présenté hier sur les petits Québécois. Des petits Québécois qui... Quand même, il y a des côtés positifs.
Ouais,
là,
ouais, la, ouais.
Ah, mais il y en a beaucoup.
La pauvreté qui recule. Ouais. Mais en même temps, une inquiétude face à la situation d'enfants qui passent beaucoup de temps devant des écrans, que ce soit une tablette ou la télé.
Mais je dirais que les côtés positifs sont... Parce que souvent, quand on a ces études-là, le portrait d'une situation, d'une génération, on a plus de négatifs que de positifs. Je dirais, dans ce cas-ci, on a presque plus de positifs que de négatifs. D'abord, moins de jeunes qui grandissent dans la pauvreté. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Deuxièmement, globalement, nos enfants sont quoi? Sont pas si pires en santé, sont pas si pires au niveau de leur... au niveau du genre de milieu où ils vivent. Des facteurs comme ce qu'on surveillait au niveau santé, l'allaitement, il y a du progrès qui est fait là aussi. Bien que je considère, moi, qu'il faut pas en faire une religion, faut encourager, faut pas en faire une folie. Mais, tu sais, le point le plus négatif de l'étude, si on aurait pu le prédire là, sans faire aucune étude, tu sais, que les jeunes sont plus sédentaires, que déjà à l'âge de 2, 3, 4 ans, ils sont sur des écrans, donc ils ont moins tendance à bouger.
Ça confirme les observations. Ouais. Ils n'établissent pas clairement une corrélation entre les deux, mais quand tu lis les chiffres, tu vois que les enfants jouent moins, ont moins d'activité physique et passent plus de temps devant l'écran.
Donc, font un peu dans bon point.
T'établis la corrélation toi-même. Tu te dis, ça, c'est clair. Mais ceci dit, tu as raison. Les résultats sont plutôt positifs. Je voyais une caractéristique qui m'a frappé. Moins de cas d'asthme. Dieu sait que c'est les enfants. Enfin, pour bien des parents, là, quand les enfants ont entre 0 et 5 ans, le problème de l'asthme, puis tu sais, ça veut dire aller à l'urgence, puis avoir des enfants qui souffrent là pendant longtemps, ça, je trouve que c'est un très beau signe.
Sauf que ça, par exemple, j'ai posé la question à la responsable de l'étude, ils n'ont pas, ce sont des études très objectives. Par exemple, sur l'asthme, ils n'ont pas d'explication. Est-ce que c'est parce que, exemple, les médicaments sont meilleurs en bas âge? Parce qu'en fait, la statistique, c'est beaucoup moins de visite à l'hôpital ou d'hospitalisation liée à l'asthme. Je peux dire qu'il y en a moins qui l'ont, mais peut-être qu'il y en a plus pour qui ça devient très bien contrôlé puis ça pose pas de problème. Là, tu sais, ça se vit plus facilement, mais ils n'ont pas les... Qu'est-ce qui a changé? Parce que, bon, on nous dit la qualité de l'air, c'est pas énormément amélioré, ce que je pense pas.
Ouais, ça détaille pas toutes les motivations ou les raisons. Faut dire, là, pour les gens, c'est que c'est nouveau, ces études-là. C'est l'Observatoire des tout-petits. C'est financé par la Fondation Chagnon. Et ça examine juste depuis 2016. Alors, c'est assez nouveau. Alors, ce qu'ils donnent, c'est des chiffres précis sur ce qu'ils peuvent avoir, eux, comme information vérifiée. À cet égard-là, il y a une inquiétude, puis là, c'est peut-être le côté moins le fun de ce qu'on lit, c'est la santé mentale. Il semble qu'il y a une augmentation, par exemple. Mais là, encore là, c'est pas clair.
Mais il y a toujours la même question. Est-ce qu'il y a une augmentation réelle ou c'est parce qu'on détecte plus rapidement? Puis,
je pense qu'il y a des exact. Deux. Dans le cas des troubles du spectre de l'autisme, je pense qu'il y a une augmentation qui est réelle. Là. On en voit autour de nous, il y a plus de problèmes d'autisme. On n'a pas la cause, on n'a pas le début d'une explication de la cause, mais c'est certain que il y a aussi une meilleure détection. Si on prend les TDAH, là, il y a une meilleure...
Ils sont identifiés plus tôt.
Oui, il y a une meilleure
identification. Et encore là, ils disent que c'est pas entre 0 et 5 ans qu'il y a le plus de détection des gens qui sont susceptibles d'avoir des problèmes.
Il y en a qui vont dire qu'il y a trop de détection qu'à un moment donné.
Oui, peut-être.
Ça, c'est une autre affaire. Là. Pas nécessairement trop de détection. C'est bien de détecter des problèmes, mais le lien entre financement des écoles qui prend pour avoir le petit budget supplémentaire un diagnostic, pour avoir des services, ça prend le budget supplémentaire, qui prend un diagnostic. Alors, est-ce qu'on est rendu dans le milieu scolaire dans une course de diagnostic où tous les professionnels de la santé ou de l'évaluation des jeunes sont poussés par les parents et par le système à dire hey, donne-nous un diagnostic, trouve un nom à ce problème-là, là, tu sais. Dès que, puis là, qu'on se rend pas compte qu'en faisant ça, on fout des étiquettes dans le front de milliers et de milliers d'enfants, dont certains ont probablement réellement un problème qui mérite d'être identifié, mais dont d'autres ont peut-être un léger trouble du spectre de l'autisme, léger quelque chose, mais qui mériterait peut-être pas une étiquette. Là. Mais là, on n'a pas le choix. Là. Ça le prend, l'étiquette, parce que l'étiquette vient avec un budget, puis le budget, l'école en a besoin, fait qu'on vient une espèce d'obsession de de donner des diagnostics.
Mais entre 0 et 5 ans, c'est moins... Ça préfigure ce qui va arriver à l'école.
Là, ouais. Ce que je décris, là, à 5-6 ans, on arrive là.
Mais puis ils font un constat aussi avec lequel on sait que c'est vrai, c'est que les enfants qui fréquentent des CPE ou des systèmes de garde éducatifs, où il y a une partie d'éducation, sont mieux préparés, puis ceux qui arrivent à l'école moins bien préparés, ben c'est toujours les mêmes facteurs. C'est les facteurs de gens qui vivent dans des milieux plus défavorisés au niveau financier ou au niveau intellectuel, des gens qui sont des enfants d'immigrants, qui ont une moins bonne connaissance de la langue. Donc, tous des critères qu'on connaît, mais ça confirme en chiffres. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet observatoire puis dans ce rapport-là, c'est qu'il y a toujours une partie qui identifie les différents domaines, puis il y en a une autre qui dit comment est-il possible d'agir? Puis ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on a comme des critères objectifs pour se dire, ouais, ben c'est là qu'il faudrait faire porter nos efforts. Ça confirme bien des intuitions, mais ça les chiffre aussi, puis ça leur donne une direction.
Puis il y a une piste, par exemple, qui c'est un chiffre qui sort un peu du reste, qui est sorti à travers tout ça. Le nombre de césariennes.
Oui, qui a augmenté.
Augmenté pas un peu, là.
Oui, je pense que c'est 19%.
Ouais.
C'est ça.
Mais c'est ce que c'est à ça demander. Est-ce qu'il y a vraiment plus de grossesses complexes? Ou est-ce que dans le système de santé, c'est mieux planifiable? Il y a toujours cette histoire-là qui circule, là, comme à un moment donné, l'avantage d'une césarienne, c'est qu'on sait la date, puis on fixe ça, là, puis ça ne te pogne pas par surprise la nuit ou la fin de semaine ou pendant des vacances, peu importe. Je sais pas, j'ai comme une lumière qui s'allume. Moi, si j'étais...
Je pourrais pas te répondre pour le Québec, mais j'ai vu un truc l'autre jour en France, là, où il y avait le même constat, puis... Beaucoup de médecins disaient que c'était devenu... Il y avait une pression des administrations d'hôpitaux pour mieux gérer le volume d'accouchement.
Ouais.
Que si médicalement, ça pouvait se faire...
Puis moi, on me dit que dans certaines régions plus éloignées, on se dit, par exemple, si l'accouchement devient complexe, on va être obligé de transférer la personne là, par ambulance dans un centre, faire 3-4 heures d'ambulance pour aller dans un centre où il y a les spécialistes qu'il faut. Fait que ça vaut peut-être pas la peine de prendre ce risque-là. Je sais pas. Toutes des affaires qu'on entend, mais si j'étais ministre de la Santé, là, cette statistique-là, je la ferais documenter parce que je pense pas que ce soit souhaitable de multiplier les césariennes pour des raisons administratives ou des raisons autres que lorsque c'est médicalement nécessaire.
Ben, puis pour un ministre de la Santé, il y a un chiffre aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même 10% des enfants qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas de pédiatre.
Mais ça va être réglé le 31 décembre?
Oui, on va avoir les chiffres au mois de mars.
Non, parce qu'on... En même temps que le rapport d'impôt, c'est ça.
C'est, oui. Non, mais on a vérifié parce que... Mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'il n'y aura pas de pénalité.
Non, parce que tu vas aussi pouvoir t'inscrire en théorie, là. T'es inscrit théoriquement sur la liste.
Il y a une inscription massive actuellement. Ça veut pas dire que vous allez voir le médecin, mais on va vous inscrire, vous allez être sur une liste qui va permettre, évidemment, de grossir les chiffres puis de dire on est presque rendu à l'objectif. Il n'y a pas d'amende de prévu, là. Les médecins ne perdront rien, là, même si on n'est pas sur la cible exacte. Ça s'est confirmé. On a appelé au bureau du ministre et du syndicat.
Et tu vas voir les gens qui ont un médecin de famille et les gens qui ont comme un médecin de famille.
Raison de plus pour commencer, donc, avoir un médecin de famille.
Tu as des gens qui ont un médecin de famille qui vont voir, puis tu as des gens qui ont un médecin de famille qui vont peut-être voir.
Ouais.
Et là, tu as vu là, la pub du ministère de la Santé sur les...
Oui, il y a des médecins qui sont outrés, là.
Ben parce que là, c'est rendu...
Chronomètre sur la...
Ouais, chronomètre dans la pub, puis voici combien de patients tel âge et tel âge que vous devez prendre. Puis
le nombre de minutes que tu devrais passer avec un patient.
Puis là, t'as 36 heures par semaine, 7 heures par jour, voici 20 patients à voir. Des médecins qui trouvent que là tu sais, ça commence à ressembler au travail à la chaîne.
Ouais, une belle discussion à avoir, parce que j'ai discuté avec mon médecin hier, justement, de la notion de médecin de famille. On a vu ça, là, le médecin de famille de l'île aux coudes qui s'en va, qui ne sera pas remplacé. Et l'affirmation du ministre de la Santé qui dit, c'est un vieux modèle désuet. Moi, le médecin de famille que j'ai me dit, ouais, c'est probablement vrai, mais que le ministre le dise, là, c'est épouvantable parce que on va perdre quelque chose. Ce qu'on va perdre, ça va être le rapport direct entre deux humains encore là.
Messieurs, passez une belle journée. On vous retrouve demain, il est 8h53. Alors, on va commencer notre survol sur, du côté de la Couronne Nord, la rive nord de Montréal. On va revenir sur la situation concernant cette grue à Montréal.